20 часов в Париже,
22
часов в Лондоне. Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec vous, Mélissa Gemam, de la rédaction en anglais.
Good evening.
Vous ferez un bilan de 2 ans de guerre au Soudan. Xenia Jean-Leclé, de la rédaction ukrainienne, pour la guerre en Ukraine, avec les derniers développements pour que les armes se taisent enfin. Pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac.
Mira.
Avec vous, il sera également question d'une guerre commerciale, celle-là, entre les États-Unis et la Chine. Ce qui fait la une de l'actualité, ce sont les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump. Son retour à la Maison-Blanche a fait exploser le concert diplomatique qui prévalait jusque-là, sans parler des tensions, voire de la guerre commerciale. Alors, dressons un premier bilan. Mélissa Chemam, de la rédaction en anglais, s'est particulièrement intéressée à l'impact sur les relations entre les États-Unis et l'Union européenne et comment l'Europe réagit.
Et oui, et sur cette relation, qu'il a longtemps considérée comme privilégiée, notre confrère David Coffey a parlé de la réponse de Bruxelles. Alors, bien que modérée, elle a été ferme et le sentiment que l'Europe ne peut plus compter entièrement sur Washington s'enracine, selon les experts auxquels il a parlé. Son langage est inattendu, c'est ce que lui a rapporté Mary McGuinness, ancienne commissaire européenne à la stabilité financière. On nous présente quelqu'un qui vient nous dire qu'il n'apprécie pas notre gestion. Ce n'est pas ce qu'on attend des amis et des alliés, ce n'est pas surprenant venant de Trump, a-t-elle ajouté, mais ce n'est pas normal. Alors, sur ce point, on écoute aussi Charles Pollock, professeur et chercheur en sciences politiques à l'Université de Géorgie aux États-Unis, avec mon collègue Yann Van der Meter.
There's been no continuity. Every day, Trump wakes up and acts as kind of whatever some kind of inner spirit tells him.
Que dit Charles Pollock?
Alors, il nous dit que le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité entre les décisions. Chaque jour, Trump se réveille et il agit selon son instinct, qu'il s'agisse d'augmenter ou de réduire des droits de douane, d'observer le krach boursier ou de tenter de le redresser, ou qu'il décide de s'en prendre aux établissements d'enseignement supérieur. Bien sûr, cela rend très difficile, à la fois aux États-Unis et à l'international, toute forme de planification et de gouvernance.
Xenia, Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 2 jours quand il était en campagne électorale. Mais le conflit dure encore et encore, malgré des négociations, certes, mais des négociations très difficiles.
Oui, Philippe, des négociations ont été lancées entre les États-Unis et la Russie, notamment à Riyad, mais sans l'Ukraine. Kiev n'était pas invité et cela a été perçu comme un manque de respect. Et puis, un moment très tendu est arrivé en février, lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Il y a eu une vraie dispute entre les deux présidents au sujet d'un projet d'accord sur les ressources naturelles. Trump a même accusé Zelensky d'être un dictateur. Cette scène a marqué un vrai changement dans le ton de relations entre les deux pays. Et pourtant, il y a 3 jours, les deux gouvernements ont finalement signé un accord sur les métaux rares, comme le lithium, le titane et le graphite. Enfin, juste après cette signature, les États-Unis ont annoncé la vente d'armes à l'Ukraine, mais cette fois-ci par un mécanisme commercial et non comme une aide gratuite. Ainsi, on passe d'un partenariat stratégique à une approche plus transactionnelle.
Et puis, d'un point de vue plus politicien, cet accord est un succès politique pour Donald Trump.
Oui, après 100 jours de présidence et sans avancée réelle, Donald Trump avait besoin de montrer qu'il obtenait un résultat. Et cet accord sur le minerai lui permet de dire, regardez, je progresse, je construis la paix à ma manière. Mais attention, ce n'est pas un accord de paix, ce n'est pas un traité militaire avec des garanties. Il ne concerne pas directement le front ou les négociations avec la Russie. Il s'agit juste d'un partenariat économique. Trump montre à son électorat comme la preuve qu'il peut faire avancer les choses et pour lui, c'est un deal gagnant. Mais sur le fond, cet accord ne suffit pas à créer la paix. Il peut renforcer la coopération entre les deux pays, il peut envoyer un signal à la Russie, mais tant que Moscou continue ses attaques, la guerre reste bien présente.
Xenia, est-ce que l'Ukraine peut encore considérer Donald Trump comme un allié fiable ?
C'est difficile à dire. Beaucoup à Kiev doutent aujourd'hui de sa fiabilité. Et d'ailleurs, Trump critique plus souvent Zelensky que Poutine. Il semble penser que les deux camps sont responsables de cette guerre, ce qui est inacceptable pour l'Ukraine. Il veut être vu comme celui qui peut faire la paix, mais on sent qu'il serait prêt à accepter un accord rapide, même si cela signifie faire des concessions à la Russie, comme par exemple reconnaître la Crimée russe. Mais malgré tout, Trump reste le président des États-Unis et l'Ukraine a besoin de garder ce dialogue.
Parler de la Crimée, on y reviendra dans quelques minutes. Autre guerre, la guerre commerciale que Donald Trump a déclarée à la Terre entière et plus particulièrement à la Chine, Hermine Roumilhac.
Oui, comme vous avez remarqué, il ne passe pas un jour depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche sans que la Chine soit cédée ou visée par l'administration de Trump comme une obsession, mais c'est pas du tout amoureuse et elle n'a pas d'autre option, puisque si les deux partis américains démocratiques et les républicains ont un point commun, c'est sans aucun doute la considération de la Chine comme le principal rival stratégique qui représente un défi global et mondial aux États-Unis. Cela depuis la politique de retour en Asie lancée par le président Obama en 2012.
Alors le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche signifie une méthode et une façon d'afficher la présence américaine dans le monde.
Oui, tout à fait. Monsieur Trump souffle tous les jours chaud et froid sur le président Xi Jinping, mais comme son premier mandat, plusieurs hauts dirigeants de son administration affichent sans aucune ambiguïté une ligne très très dure vis-à-vis de Pékin, à l'image de son secrétaire d'État, M. Rubio. Le jour de sa nomination, il a réuni ses homologues du groupe Quad, donc c'est-à-dire japonais, indien et australien, pour souligner l'importance de travailler avec ses alliés dans l'Indo-Pacifique.
Et pour rendre furieux Pékin, quoi de mieux aussi pour relancer le débat sur l'origine de l'épidémie de coronavirus, hein.
Oui, tout à fait. Malgré le débat toujours vif au sein de la communauté scientifique sur le sujet, la Maison-Blanche a lancé le 18 avril un nouveau site web officiel consacré au coronavirus, identifiant clairement la fuite du laboratoire de Wuhan comme la véritable origine du coronavirus.
Et puis il y a aussi le renforcement du poids politique de Xi Jinping sur la scène internationale grâce à l'impopularité finalement dans l'autre sens de Donald Trump.
Vous avez raison. En fait, c'est une opinion qui commence à répandre un peu partout, non seulement en Chine, mais aussi en France et en Allemagne. C'est un point certes très intéressant à observer, mais reste à confirmer. Mais on peut évoquer un autre point non négligeable, c'est-à-dire quand le président Trump revendique des territoires sur le Canada, le Groenland et aussi sur le canal Panama, ces déclarations pourraient apporter un soutien psychologique à tous les hégémonistes régionaux, par exemple comme M. Xi Jinping et comme M. Poutine, qui pourraient avoir des ambitions territoires sur Taïwan ou sur l'Ukraine, comme on en a parlé tout à l'heure.
Voilà, un trimestre de présidence Trump, il reste encore 4 ans.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Revenons à la guerre en Ukraine qui avait finalement commencé il y a bien longtemps avec l'annexion de la Crimée. Plusieurs médias occidentaux ces jours-ci, dont The Wall Street Journal, révèlent que les États-Unis discuteraient, dans le cadre d'un plan de paix, d'une possible reconnaissance de la Crimée comme territoire russe en échange d'un cessez-le-feu. Alors, Xenia Jernoclé de la rédaction ukrainienne de RFI, cette fuite a provoqué une réaction immédiate du président ukrainien. Il réaffirme l'intangibilité de la Crimée annexée illégalement.
Alors, cette annexion est un crime de droit international. Plus de 10 ans ont passé depuis l'occupation de la Crimée par les troupes russes. Sans un signe, ils ont pris le contrôle de l'ensemble de la péninsule. Et un référendum était organisé sans observateurs indépendants et sous pression militaire. Et c'est à la suite de ce référendum que la Russie a déclaré le rattachement de la Crimée à son territoire. Cette consultation était condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU et par la quasi-totalité de la communauté internationale. L'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis ont déclaré cette annexion nulle et non avenue, car elle viole la Charte des Nations Unies, le mémorandum de Budapest, où la Russie garantissait d'ailleurs l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et la Constitution ukrainienne qui interdit toute modification du territoire sans référendum national. Donc la Crimée reste légalement une terre ukrainienne occupée par la Russie.
Alors dans ces conditions, pourquoi est-ce que la question de la Crimée n'apparaît pas au cœur des négociations internationales qui ont lieu en ce moment ?
Oui, d'abord l'Ukraine a adopté une stratégie dite par étapes. On se concentre en priorité sur la libération de territoires occupés après février 2022 comme Kherson, Zaporijje ou le Donbass. Et la Crimée déjà annexée depuis plus de 10 ans représente un défi plus complexe tant sur le plan militaire que diplomatique. Ensuite, Kiev, comme ses partenaires occidentaux, ont souvent évité d'aborder frontalement la Crimée afin de ne pas compromettre les maigres chances de dialogue avec Moscou. Poser la question du retour de la Crimée risquait de faire échouer toute tentative de négociation. De plus, pendant longtemps, l'Ukraine ne disposait pas de moyens militaires pour menacer directement les infrastructures russes en Crimée. Et ce n'est qu'à partir de 2023, avec les frappes ukrainiennes sur Sébastopol et le pont de Kerch, que la Crimée est redevenue un objectif actif dans cette guerre. guerre. Et du côté occidental, il y avait aussi une volonté de prudence. La plupart des pays alliés ne souhaitaient pas provoquer une escalade russe s'ils mentionnaient ouvertement le statut de la Crimée.
Et côté ukrainien maintenant, pourquoi est-ce que Kiev refuse obstinément de céder la Crimée si ça peut arrêter la guerre ?
Alors, l'abandon de ce territoire aurait des conséquences dramatiques. C'est une violation flagrante du droit international qui légitime la conquête militaire comme moyen de modifier les frontières. Et je propose d'écouter le président ukrainien.
Notre position ne peut pas aller en rupture avec notre constitution, la constitution ukrainienne.
Aidez-nous à comprendre ce que dit Volodymyr
Alors,
Zelensky.
Il a commenté, il a dit que notre position officielle ne peut pas être différente de ce que stipule la constitution ukrainienne. On ne peut pas rendre quelque chose qui appartient au peuple ukrainien. Et d'ailleurs, suite à cet article du Wall Street Journal, Zelensky avait dit que l'Ukraine n'a reçu aucune proposition officielle concernant un échange ou un abandon de ses territoires. Ce sont des idées, des visions, des signaux, mais pas de proposition formelle. Et si une proposition officielle arrive, l'Ukraine va y répondre immédiatement.
Encore une question, pourquoi est-ce que la Crimée est si importante pour Vladimir Poutine ?
Alors déjà, c'est un symbole historique et identitaire. Poutine la considère comme le berceau spirituel de la Russie, en lien avec le baptême du prince Vladimir de Kiev il y a déjà 1000 ans. Il qualifie la Crimée de terre sacrée. Et puis, l'annexion de la Crimée a été l'un des moments les plus importants de son régime. C'était perçu comme une véritable revanche contre l'Occident et aujourd'hui, renoncer à ce territoire serait pour lui une humiliation politique fatale. C'est aussi un atout stratégique militaire. La Crimée abrite la base navale de Sébastopol et elle permet à Moscou de projeter sa puissance jusqu'à la Méditerranée et de contrôler une grande partie du bassin maritime. Et contrairement au territoire du Donbass, de Zaporizhzhia ou de Kherson, la Crimée est pleinement administrée par la Russie depuis déjà 10 ans avec un système juridique, une présence militaire et des infrastructures connectées à la Fédération.
Xenia Jean-Norclé de la rédaction ukrainienne de Radio France Internationale. Sur le site internet de RFI en anglais, on peut lire un article et écouter un podcast concernant un autre conflit. Il concerne le Soudan, qui depuis 2 ans est en proie à une guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti. Alors Mélissa Chemam, ce conflit a déjà fait de très nombreuses victimes.
Oui, c'est l'un des problèmes de ce conflit difficile à résoudre, car c'est une guerre civile, c'est qu'il touche essentiellement les personnes vivant dans le territoire, des civils. Il a fait des dizaines de milliers de morts en 2 ans, déplacé plus de 13 millions de personnes et déclenché ce que beaucoup qualifient de la plus grave crise humanitaire jamais enregistrée. Alors, les forces armées soudanaises ont annoncé la reprise de la capitale récemment, c'était en mars, mais les combats se sont poursuivis au sud et à l'ouest de la capitale, où les proches de résistance sont dominés par donc les rebelles qu'on appelle les RSF. Et le 15 avril a marqué donc l'entrée dans une troisième année de ce conflit où on ne voit toujours pas de résolution. Pour mieux comprendre la réalité sur le terrain où les journalistes ont peu d'accès, RFI a envoyé des reporters francophones, mais nous avons parlé aussi aux représentants au Soudan du comité de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. Il s'appelle Assadullah Nasrallah.
Out of these 13 million, nearly 4 million have fled to the neighboring countries.
Alors, que dit ce porte-parole du HCR ?
Alors, il nous rappelle que sur les 13 millions de personnes qui étaient contraintes de fuir leur foyer depuis le début de la guerre, il y a 2 ans et demi, il y en a 4 millions qui ont fui dans des pays voisins. Donc, elles sont dans le statut de réfugiés. Il s'agit du Tchad, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie, de l'Égypte, mais aussi de la République centrafricaine et de la Libye. Certains ont même fui en Ouganda. Et environ 9 millions sont déplacés à l'intérieur du Soudan. Parmi ces familles, la plupart sont hébergées dans des conditions de surpopulation extrême, parfois dans des bâtiments d'école. Ceux-ci sont tous fermés et la plupart des services ne leur sont pas accessibles.
Alors, compte tenu de la situation, les ONG affirment que l'Europe doit intensifier son intervention, tant au niveau politique qu'humanitaire. Pour ces organisations, que faut-il faire ?
Alors, c'est la question que nous avons posée. En effet, j'ai parlé pour cela dans Spotlight on Africa, notre podcast cette semaine, à l'un des représentants de Human Rights Watch. Il est basé à Bruxelles et travaille sur les questions de advocacy. Et il explique que pour lui, l'Europe a déjà trop fait, mais surtout qu'elle doit beaucoup plus faire pour intervenir. On l'écoute.
For the past 2 years of very dramatic conflict in Sudan, we've all assessed that EU's response.
Aidez-nous à comprendre ce que dit Philippe Dame.
Alors, il nous rappelle qu'au cours de ces 2 années de conflit dramatique au Soudan, c'est vrai que la réponse de l'Union européenne à la crise a été bien en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Il n'y a eu que quelques séries de sanctions, quelques déclarations fortes, mais globalement une absence totale d'action décisive, notamment sur les parties du conflit, les belligérants, mais aussi les pays qui les soutiennent. Et le rôle politique et le financement des armes, notamment, pourrait être un véritable levier. Ils pensent pourtant que la question n'est pas de savoir si l'Union européenne pourrait intervenir, mais il est nécessaire qu'elle intervienne. Le Soudan n'est pas loin de l'Union et l'organisation en voit les conséquences, particulièrement avec les déplacements massifs de population, attaques contre les civils et puis bien sûr contre les droits humains.
Voilà pour la situation au Soudan avec Mélissa Chemam de la rédaction en anglais. Venons-en à cette guerre commerciale américano-chinoise déclarée par Donald Trump. Hermine Roumilac, les réactions face aux surtaxes douanières qu'il a annoncées ont été très différentes. Mais la majorité des pays a choisi de négocier puisque le marché américain est irremplaçable.
Oui, vous avez dit la majorité, mais un seul pays qui a voulu, qui a osé rendre œil pour œil est important à Donald Trump, et Pékin, qui lui a été surtaxé à la hauteur de 34% à l'initial. Après la riposte immédiate de Pékin, la pâle presque dramatique de surenchère a commencé à durer 2 semaines. À la fin de compte, c'est côté américain 145% et côté Pékin 125% de surtaxe. Donc maintenant, les deux pays sont dans une situation de blocage. En plus, 7 jours après l'annonce de ces surtaxes dites réciproques, Trump est revenu sur sa décision. Donc il a donné 90 jours de répit pour négocier à tous les pays, sauf la Chine. Et quand le premier producteur mondial et le premier consommateur mondial ne s'échange plus par effet papillon. Tout le monde est concerné et à sa manière.
Est-ce que la Chine pourra chercher à détourner les sanctions en faisant un détour, justement, par les autres pays, d'autres pays?
On pourrait imaginer cette façon, mais c'est ce qui s'est passé aussi en 2018, quand M. Trump a déclaré la première guerre commerciale avec Pékin. Beaucoup d'entreprises chinoises ou étrangères ont ensuite déménagé dans les pays voisins de l'Asie du Sud-Est de la Chine, comme Vietnam, Malaisie ou encore Cambodge, ou bien en Mexique ou alors en Hongrie. On a vu que le Mexique a été l'un des premiers pays visés par Trump. Ce n'est pas un pur hasard. Et puis le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande ou la Malaisie ont été très très lourdement taxés cette fois-ci aussi, allant jusqu'à 49% pour Phnom Penh, qui est l'un des pays les plus fidèles à Pékin. Ce n'est pas non plus une grande surprise. Et clairement, la Maison-Blanche ne veut pas laisser de chance aux entreprises chinoises ou étrangères d'utiliser d'autres pays pour détourner les taxes douanières imposées à la Chine. Le message est très clair. Il faut choisir entre les deux pays. Et de son côté, les responsables chinois ont lancé également un avertissement aux pays tiers qui mènent actuellement des négociations commerciales avec Washington à ne pas conclure des accords qui porteraient atteinte aux intérêts de la Chine.
Alors, au bout du compte, Hermine, est-ce que la situation est bloquée?
En fait, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, Pékin compte probablement maintenant sur les impatiences et la colère des consommateurs et les électeurs américains pour faire plier Trump. Et de côté Pékin, à part ressortir des phrases du président Mao Zedong qui appelait à résister face à l'impérialiste américain, le 29 avril, le ministre des Affaires étrangères chinois a publié une courte vidéo intitulée « Ne pas se mettre à genoux », affirmant que la Chine ne reculerait pas sous la pression extrême du président Trump et laisse entendre que la pression ne fait que souligner son dilemme de fleur impuissant qui tombe et à la situation mondiale de tempête qui approche forcément dévorable à Washington, à qui le monde entier s'est tourné le dos, selon Pékin.
Comment expliquer cette position dure de Pékin, contrairement à 2018, hein, où Pékin avait choisi d'entamer des négociations?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai posé cette question justement au chroniqueur économique basé à Washington, M. Li Renqing, on l'écoute. Alors, selon lui, rapidement, la stabilité politique est désormais primordiale pour M. Xi Jinping, qui rencontre de multiples problèmes internes. De plus, il croit fermement au déclin de l'Occident et a toujours l'ambition de devenir le leader mondial. Contrairement au Trump, il n'a pas de pression électorale en Chine et la guerre commerciale a un prix à payer, mais il préfère dire que c'est à cause des États-Unis. Il a aussi affirmé que la Chine dispose désormais un marché interne énorme pour finalement utiliser comme l'arme contre les États-Unis, qui est selon lui un tigre en papier. Ce qui compte plus pour lui, ce n'est pas la qualité de la vie des Chinois, mais la stabilité de son pouvoir
Merci.
Personnel.
Merci Hermine Roumilac, c'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.